Les sportifs consomment plus d'alcool que le reste de la population. Ce n'est pas moi qui le dis, mais mon invité qui est psychologue spécialisé en addictologie. Alors, pourquoi autant de sportifs consomment-ils de l'alcool et de manière aussi excessive dans certains cas ? C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et avant de débuter cet épisode, comme c'est le premier épisode de la nouvelle année, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte bien-être, réussite dans votre vie, dans le sport et surtout la santé. Et peut-être avez-vous fêté 2024 en buvant une petite coupe ou peut-être avez-vous décidé, à l'inverse, de suivre le Dry January, le mois de janvier sans alcool. Aujourd'hui, en effet, nous continuons notre série dédiée à l'alcool dans le sport et nous partons à la rencontre d'Aude Roux, psychologue spécialisé dans les addictions et qui connaît très bien celle à l'alcool chez les sportifs, car c'était le sujet de sa thèse. Et le sujet de sa thèse, c'est que les sportifs constituent une population à risque tant ils ont tendance à considérer les ivresses comme une pratique ordinaire, et notamment dans les sports collectifs qui fournissent des contextes et motivations très régulières. Alors bien sûr, en disant ça, on pense au rugby et c'est la légendaire troisième mi-temps, mais Aude nous parle aussi du handball ou du football. D'ailleurs, vous avez découvert qu'un entraîneur français d'une très grande équipe avait dû s'en occuper tant la murge collective au pub du coin était devenue traditionnelle chaque semaine. Avec Aude, nous avons donc discuté de la consommation d'alcool très régulière chez les sportifs, de la psychologie très particulière des sportifs qui peut expliquer ce comportement, de pourquoi l'alcool est la pire des addictions, de l'image de l'alcool aussi dans notre société, notamment en France, de l'évolution des comportements et notamment chez les jeunes, de certaines pratiques et de nouvelles pratiques que je ne connaissais pas, par exemple comme l'alcoolorexie, et pourquoi finalement on ne parle pas beaucoup de l'alcool dans le sport, qui est un milieu très fermé. Elle nous donne aussi des signaux d'alerte, les quantités, les comportements et des stratégies si on veut réduire sa quantité d'alcool. Allez, c'est parti. Bonjour Aude.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Très bien, merci.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te le disais un petit peu en préambule avant qu'on commence l'enregistrement, on est dans une série d'épisodes autour de l'alcool et du sport, qui pour moi me semble pas très compatible,
ouais.
Mais qui, quand j'en discute un petit peu autour de moi, quand je regarde l'actualité, je me dis quand même qu'il y a à un moment donné, il y a une conjonction, et j'en ai parlé avec d'autres invités d'ailleurs, parce qu'il y a des éléments culturels, des éléments festifs, des éléments sociaux, des éléments d'habitude, d'addiction, tous ces sujets-là. Et ça, ça fait quand même de nombreux sujets hein, à aborder. Moi, je trouve qu'on a quand même un beau truc à aborder. Alors d'abord, je vais te laisser te présenter en quelques mots.
Oui, alors donc je suis Aude Roux, je suis psychologue clinicienne spécialisée en psychologie de la santé, donc notamment autour de l'addictologie, et j'ai une spécialité en psychologie du sport. Et donc j'ai fait une thèse sur la consommation d'alcool chez les sportifs, parce que comme tu l'as très bien dit, on a remarqué que les sportifs consommaient plus d'alcool que les non-sportifs, et nous en psychologie, on a voulu voir s'il y avait quelques variables psychologique et aussi sociale, environnementale, qui allait avoir un impact dans cette consommation.
Et donc, c'est dingue. Attends, tu me dis que les sportifs consomment plus d'alcool que les autres.
Ouais.
Alors que pourtant, on dit que c'est pas bon pour la santé. Enfin, je sais pas, à moins qu'on ait découvert que c'était un produit dopant.
Mais c'est ça toute l'ambivalence, en fait. C'est qu'on part du principe que le sport, c'est forcément quelque chose de bon pour la santé. Et ça l'est, effectivement. Mmh. Après, toujours avec modération aussi, on peut parler aussi de l'addiction au sport. Mmh. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de... Les sportifs vont plus consommer. Donc, nous, on voulait savoir, est-ce qu'il y avait quelque chose du dépassement de soi aussi dans cette consommation? Quelque chose de faire face au stress lié au sport et du coup, on se réfugie dans l'alcool? En tout cas, il y a un constat qui est là, qui est clair. Donc, ça a beaucoup été prouvé aux États-Unis, notamment grâce aux universités américaines où il y a des études qui sont plus facilement, on va dire, menées. Et donc, on comparait beaucoup des étudiants non sportif et sportif, mais on faisait ça sur des milliers et des milliers de personnes. Et à chaque fois, on arrivait au même résultat qui était que les étudiants sportifs consomment davantage, mais dans des quantités très importantes. Et c'est là où j'interviens parce que je serai jamais, du coup, à dire non, il faut pas consommer d'alcool. Mais en tout cas, c'est des quantités tellement énormes que ça va forcément avoir un impact, en tout cas sur la santé des personnes.
Alors, c'est intéressant parce que d'où ça vient alors cette j'ai fait mes recherches quand même. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau qui sombraient dans l'alcool après leur carrière, hein, et on a donné des exemples dans d'autres épisodes ou dans cette série d'épisodes, on en a eu en natation, le nombre de nageurs qui sont devenus alcooliques après leur carrière ou même pendant leur carrière qui ont fait leur retour après. Mais des sports aussi, j'ai l'impression, un peu d'endurance autour de la course à pied, des... Alors, j'ai vu des footballeurs aussi, d'autres sports, mais quand même, c'est un truc qui semble très répandu, ou en tout cas beaucoup plus, où on en parle en tout cas.
Mais c'est hyper drôle l'exemple que tu as cité, parce que c'était justement, j'étais devant les Jeux Olympiques une année, et il y avait la finale, je dis une bêtise, mais peut-être du 100 mètres, et là, il y avait tous les nageurs qui arrivaient, et à chaque fois, c'était « Oh, ben il revient de cure de désintox », ou « Oh, il a eu des comportements », et j'étais « Ah, mais c'est fou », et pareil, ben, l'endurance, on se dit « Mais directement, l'alcool va avoir un effet sur les capacités physiques, les capacités de récupération », ça a un effet aussi sur la déshydratation, on va se déshydrater beaucoup plus vite. Et du coup, c'est totalement contre-intuitif de se dire ben, les sportifs vont consommer de l'alcool, mais il y a tout un tas d'études. Alors là, je suis beaucoup moins spécialisée dans le domaine, mais qui ont fait un rapport entre du coup sport et alcool et les effets que ça a dans le cerveau. Et en fait, l'alcool va justement jouer sur la dopamine, qui est un peu l'hormone du bonheur, etc. Et ça active le circuit de la récompense. Ah. Et c'est ce même circuit qui est activé dans l'activité sportive. Et donc, c'est une des possibilités, une des hypothèses qui est mise, c'est que justement, ben, quand un sportif en fin de carrière, en tout cas, va beaucoup moins pratiquer qu'avant, pour retrouver cette sensation de plaisir, etc., va peut-être plus facilement consommer. Pour réactiver justement tout ce circuit-là de récompense.
Parce que, je veux pas dire une bêtise, mais on est quand même un peu accro à la dopamine à partir d'un certain niveau d'entraînement par semaine.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est une hormone qui se dégage beaucoup plus chez ceux qui pratiquent intensivement. Donc, c'est vrai que, enfin, il y a comme une sorte de sevrage aussi à ce niveau-là. Qui peut se faire si du coup l'activité s'arrête du jour au lendemain. Donc elle s'arrête jamais réellement totalement, mais en tout cas l'intensité devient tellement, enfin diminue tellement que pour compenser, en sorte de compensation, il y aurait peut-être un petit refuge qui peut se faire à ce moment-là dans l'alcool. Et je crois que c'est des joueurs d'Arsenal, un joueur d'Arsenal qui avait justement lui ouvert en fin de carrière un centre justement addicto parce qu'il s'était rendu compte que lui-même avait eu des comportements comme ça.
Ouais. Et il y a un truc qui est vrai aussi, et je ne sais pas si c'est lié, s'il y a des choses qui le montrent, mais on se rend compte quand même qu'on parle beaucoup en ce moment du mal-être mental, du mal-être de beaucoup de sportifs. J'ai lu encore un article hier ou avant-hier sur un ancien joueur. Alors, on enregistre en décembre, je le dis, hein, pour que ça que c'est un hier de 2023. Comment il s'appelle ? Thauvin, qui jouait à l'Olympique de Marseille, qui disait qu'il était sportivement à fond, mais par contre, qu'il était allé voir un psychiatre ou un psychologue pour dire « je me sens pas bien », etc. Qui lui a dit qu'il était en début de dépression. Ce qui est... Enfin... On a parlé de Simone Biles, on a vu les nageurs, il y a eu des cas, il y a eu des suicides. À Nice, cette année, il y a eu une tentative de suicide d'un joueur de Nice, quand même. C'est incroyable. Et j'ai vu un documentaire aussi sur les centres de formation, les jeunes de centres de formation, le nombre de footballeurs qui sont vraiment pas bien, alors qu'on dit qu'ils ont un métier de rêve, en apparence, de l'extérieur. Ça peut être lié à ça, en fait, des choses qu'on ne voit pas de l'extérieur, qu'on n'arrive pas à percevoir.
Ça peut être lié à tout. C'est vrai que le milieu sportif, c'est un milieu hyper particulier. Enfin, du coup, on parle de gens dès plus jeune âge, ont sacrifié beaucoup de choses pour arriver à leur fin et très peu vont réussir. Donc, c'est vrai que, après, c'est aussi un reflet, je trouve, un peu de la société actuelle. C'est-à-dire que ben, les jeunes ne vont pas très bien et ça, on le sait depuis quelques années. Donc, il y a eu toute la période Covid, etc. Mais pour moi-même, être en libéral, j'ai beaucoup de jeunes en cabinet. Et c'est un milieu tellement particulier. Il y a beaucoup de sacrifices. C'est une pression constante aussi, hein, parce que on peut être au sommet et du jour au lendemain être blessé et là plus personne n'appelle, etc. Donc il faut être hyper bien entouré. Après, au niveau psychologique, c'est vrai qu'il y a des bilans psychologiques obligatoires chez les sportifs de haut niveau, une fois par an pour les majeurs et deux fois par an pour les mineurs. Donc Le but, c'est de détecter justement si tout va bien. Généralement, on fait un peu de tour sur l'alimentation, les blessures, la fatigue, l'environnement aussi, comment est-ce qu'on se sent, les comportements alimentaires, mais aussi on va un peu plus loin sur ben, justement les idées suicidaires, etc. Parce que c'est, oui, le mental est mis à mal. Et donc, voilà, après. Je trouve que ouais, c'est à la fois un reflet de la société, c'est des conditions tellement particulières que ça peut totalement s'expliquer aussi.
Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a des sportifs qui, enfin, ils sont jamais dépendants, ils sont jamais maîtres du résultat. Il y a un truc qu'il faut qu'on répète, hein, quand même. Là, il y avait le marathon de Valence il y a 2 jours, quand on enregistre. Ils sont, je ne sais pas combien à passer sous les minima pour faire les Jeux Olympiques, mais seulement il n'y en a que quelques-uns qui pourront y aller. Alors qu'ils sont tous entraînés pour y arriver, mais la sélection de fait qu'ils vont pouvoir y aller, eh ben, elle dépend pas d'eux. C'est rude quand même, hein, parce qu'on dit oui, tout travail mérite salaire, etc. Enfin, toutes ces notions qu'on entend depuis notre enfance. Dans le sport, c'est pas vrai, hein.
Mais il y a un facteur chance aussi, il y a un facteur chance de, ben, le jour de la compétition, être au maximum de ses capacités, pas avoir de blessures, avoir bien dormi, il y a, oui, tomber, enfin, faire la bonne trajectoire au bon moment, il y a tellement un facteur chance qui peut parfois paraître injuste, ben, j'ai travaillé vite fait en natation, et c'est vrai que c'est tellement de sacrifices, enfin, en Pôle Espoir, ils sont à 6 heures de natation par jour, en plus du lycée, et c'est un métier où on a très peu de chances d'en vivre. Enfin, on parlait d'Alain Bernard. Alain Bernard, il faisait les Jeux Olympiques et pourtant, il devait travailler, avoir une activité salariée à
Ah,
côté.
je
Donc,
savais pas.
évidemment, c'était adapté aussi à son niveau. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, dans certains sports, on va dire, dans les sports un peu moins connus, ou en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est encore plus compliqué, j'ai l'impression, pour les sportifs.
Ouais. Et puis bon, en natation, en plus, ça part compter les petits carrés au fond de la piscine pendant 6 heures. J'avais vu d'ailleurs, alors est-ce que c'est vrai ou pas, mais des articles disaient qu'il y a des sports qui sont plus un petit peu où les adeptes sont plus sujets à pouvoir être addicts à certaines substances qui peuvent être de l'alcool, mais qui pourraient être de la drogue ou même du sucre, hein, j'ai envie de dire, parce que tant qu'on y est, si on peut être addict à un truc, j'ai l'impression qu'on peut être addict à plein de choses en fait. C'est un espèce de tempérament.
Mais il y a les polyconsommations, ouais. Il y a du coup souvent, mais avec l'alcool, on va parler du tabac ou du cannabis, etc. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des comportements comme ça. Et puis quand on parle d'addiction aussi, on parle souvent nous de noyau addictif, c'est-à-dire que si on a une addiction à une substance, comme tu dis, il y a des fois un risque d'avoir plus facilement aussi une addiction à une autre substance, ou alors d'arrêter une addiction à une substance et on va compenser directement par autre chose. Après, oui, dans la consommation d'alcool, il y a un facteur qui est quand même là, c'est vraiment le groupe, l'effet de groupe. Donc, c'est vrai, dans les sports, ben, on va beaucoup plus parler de consommation d'alcool dans les sports collectifs, et ce qui est réellement le cas. C'est-à-dire que, en gros, nous, dans la vie de tous les jours, on a des contextes où on peut être incité à consommer de l'alcool. Les sportifs ont à la fois les contextes de la vie de tous les jours et ont en plus tous les contextes liés au sport, c'est-à-dire ben, après l'entraînement, après un match, etc. Tout ça crée des contextes encore supplémentaires pour consommer de l'alcool. Et dans ces contextes-là, en plus, enfin, on va pas se mentir, on consomme beaucoup. Donc c'est vrai que il y a des contextes qui sont là et qui font que les sportifs sont plus à même de consommer, et notamment de l'alcool.
Mais en plus, il y a une valorisation dans certains sports, parce que ceux qui sont fans de rugby, il y a la fameuse troisième mi-temps, on dit le rugby passe professionnel, et les joueurs de rugby professionnels, ils continuent. Il y a eu encore une affaire il y a quelques jours, j'ai vu, qui concernait un club de Paris, en disant les joueurs leur ont interdit de sortir parce qu'ils ont pris 30 points dans la vue, ils sont quand même allés sortir, ils sont quand même bu un coup, ils se sont battus, ils se sont fait choper au retour. Ce qui montre que même s'ils ont pro, qui gagnent leur vie, qu'il faut qu'ils soient en forme le lendemain parce qu'on leur a mis un entraînement musclé, ils y sont quand même allés, quoi.
Mais c'est ça, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas dire oh là là, les sportifs consomment de l'alcool, c'est pas bien. C'est que la quantité qu'ils consomment est vraiment énorme. En fait, quand j'avais interrogé les sportifs pour ma thèse, on parlait de quantité, mais nous, on fait tous des comas éthyliques. C'est qu'ils ont une capacité de résistance qui est folle. Y a l'effet de cohésion, l'effet de groupe, d'appartenance à l'équipe, de vas-y, on y va, enfin, on est tous ensemble, etc. Et puis aussi au niveau des motivations, souvent, Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur les motivations psychologiques à la consommation d'alcool. Et du coup, il y avait ce qu'on appelle le renforcement positif, c'est-à-dire, oh, ben, on a gagné le match, on mérite de se récompenser, on se récompense par le fait de consommer de l'alcool. Mmh. Mais ça peut tout aussi bien être, ah, on a perdu le match, ah, ben, on mérite un peu d'aller mieux, donc comment est-ce qu'on va aller mieux? Bon, allez, on va consommer de l'alcool, on va quand même faire la fête. En fait, l'alcool, dans le contexte sportif, il est souvent la réponse à beaucoup de situations.
Mais j'ai l'impression que c'est pas que dans le contexte sportif, c'est-à-dire que c'est aussi une récompense. Tu disais parler de récompense. J'ai vu l'autre jour une image, enfin une story d'une coach qui disait, et qui est très connue en plus, alors en plus elle le met sur Instagram, donc il n'y a aucun doute là-dessus, enfin qu'elle le partage, qui disait que bon, elle était un peu accro à l'alcool à une époque, qu'elle essayait de se sevrer, et qu'elle disait que dans son frigo, il fallait qu'elle ait la bière sans alcool. Parce qu'après une dure journée, c'était ça un peu son. Alors je sais pas si c'est sa récompense, ou en tout cas le truc pour un petit peu apaiser un peu, peut-être, je sais pas, des. Fatigue nerveuse, mentale, toute sa journée à absorber en fait avec les enfants, le travail et autres.
Ouais. Mais après, c'est bien dans le sens où elle a trouvé un peu une parade, hein. C'est-à-dire que je pense que la bière sans alcool, il y a un peu l'effet justement quand même de la substance qui est là, il y a le goût, etc. Ce qui manque, c'est le taux d'alcoolémie, enfin l'éthanol, donc tant mieux. Mais oui, mais c'est une autre. On va revenir aux dimensions psychologiques, c'est une autre des motivations, c'est le fait, ce qu'on appelle le fait de faire face, donc le stress. Donc ça peut être très bien, hein, pour faire face au stress, je vais consommer de l'alcool et pour me détendre de ce stress-là, je vais consommer de l'alcool. Et souvent, en plus, c'est plus ce qu'on imagine, en fait. C'est-à-dire que ça se trouve, dans sa journée, il y a déjà pensé en se disant, ah, ce soir, j'ai bien mérité ma bière et de suite, ça va me détendre. En fait, c'est l'effet qu'on pense que l'alcool va nous faire aussi, des fois, qui joue beaucoup.
Mais moi, ça, je le faisais avec un verre de coca ou une tartine de Nutella.
Ouais.
Pourquoi il y en a qui le font avec du sucre, d'autres qui vont le faire avec de l'alcool? On a une idée de ça ou...
Alors là, je ne saurais pas dire, ça dépend de tout un chacun, mais c'est vrai que après, ça dépend de la société aussi. En France, on ne va pas se mentir, hein, la consommation de vin, maintenant la consommation de bière, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Donc on peut très bien à 16h se dire, ben, on va se faire une bonne tartine de Nutella, même si voilà. Et à 20h se dire, oh, ben, maintenant on va se faire un verre de vin. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de se dire pourquoi cette substance-là plus qu'une autre. Il y a des effets aussi, il y a l'effet des inhibiteurs, des fois aussi où on se dit, ben, on va vraiment relâcher la pression, être mieux, se socialiser. Arriver à être plus joyeux aussi. Y a plein d'attentes qu'on n'a peut-être pas forcément avec d'autres parce que ben, l'alcool quand même nous met dans un état qui n'est pas aussi notre état de base, des fois, en tout cas passé un certain stade, et des fois c'est aussi cet état-là qui est recherché.
Ouais, et sans effort, parce que j'ai envie de dire, aller voir des amis, être sentir mieux, on pourrait dire, je vais faire du sport, 3 quarts d'heure, 1 heure, et j'ai à peu près les... Enfin, je dis pas que j'ai tous les mêmes effets, mais certains des effets dont tu as parlé, je les ai quand même.
Ouais.
Mais...
Oui, mais après, certains vont faire du sport et après vont se récompenser aussi avec un verre d'alcool. Donc, pas tout le monde. Mais c'est vrai que, ouais, il y a cet effet-là. Et puis, il y a l'effet du contexte social, hein. On est quand même très souvent sollicité pour aller boire des verres avec des amis. Et c'est comme ça. C'est un peu dans la culture aussi, dans notre culture.
D'ailleurs, on en a parlé parce que c'est, on a parlé avec Bruno Obi parce qu'on a fait un épisode avec Bruno Obi sur le sujet et on disait notamment parce que moi c'est un truc que j'ai vécu dans ma famille. Moi je bois pas beaucoup d'alcool. Hein. Alors là on est juste dans la saison où je bois une bouteille de vin. C'est juste avant les fêtes. C'est la seule bouteille de vin de l'année. J'achète ça et tout pour les repas. Mais il y a des gens qui comprennent pas en fait. C'est-à-dire que quand on me dit tu vas boire quoi pour l'apéro, moi si je dis je bois un Perrier ou à la limite un Coca, les gens vont regarder un peu bizarrement, mais ils disent, oh, tu vas pas me prendre un Kir, tu vas me rendre un petit truc de rouge ou je sais pas quoi. Il y en a qui, pour qui, ça semble inconcevable, cette histoire, de dire qu'on boit pas d'alcool.
J'espère quand même que c'est un peu plus chez les plus jeunes à la vingtaine où on va pas forcément prendre en compte les envies des gens, où on va pas forcément tout comprendre, mais je pense que quand même il y a certains âges où on se dit ben, en fait chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que je pense que c'est tellement une substance qui a une image positive en fait. L'alcool a vraiment une image positive comparée par exemple au tabac. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus perçu de manière, c'est sympathique, ça met une bonne ambiance dans une soirée. Il y a vraiment cet effet-là. Et du coup, quand certains ne veulent pas, on se dit, bah, du coup, ils veulent pas participer à cette ambiance dans la soirée, ou alors que pas du tout, hein, ça va empêcher nullement de s'amuser. Mais il y a vraiment, ouais, ce rattachement, j'ai l'impression, à quelque chose de positif, de festif, comme on disait. Et du coup, des gens qui se mettent en marge de ça, certains vont considérer qu'ils ne veulent pas participer alors que c'est totalement faux.
Ouais, et d'ailleurs, la coach que j'avais dit, elle disait même qu'elle était un peu la boute en train qui refusait jamais de boire un coup. Et que ça touche à l'image après. C'est-à-dire que quand elle arrête d'un coup, les gens disent, mais t'es plus la même. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, t'as un problème ou... Enfin, c'est même presque t'as un problème ou alors t'es enceinte. Quand t'es une femme, à la limite, j'ai envie de dire, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu les deux trucs. T'es malade ou t'as. Mais alors que le truc, non, je veux juste être en meilleure santé parce que je trouve que c'est peut-être pas le meilleur produit à consommer, semble pas trop prenez dans l'équation de temps en temps, quoi.
Oui, tout à fait. Mais c'est totalement ça. Je sais pas comment on peut expliquer ça à part par la culture et de se dire que bah, ouais, l'image de l'alcool est positive et du coup le fait de pas consommer, ça peut paraître se mettre. Enfin, on a l'impression vraiment de se mettre en marge des fois, vraiment du reste de la société.
Alors, le problème dans tout ça aussi, c'est la consommation. Tu disais, bon, les sportifs sont capables de consommer beaucoup plus d'alcool et tout. Mais on parle beaucoup, parce que la quantité, où on dit, si on boit 2-3 verres de vin par jour, 2-3 verres de vin d'alcool, est-ce qu'on est alcoolique? À quel niveau on commence à devenir alcoolique? On a un truc là-dessus, de dire, il y a un moment où il y a une habitude qui est trop importante.
Alors, il n'y a pas de règles claires, mais il y a des préconisations. Ben, celle dont on parle souvent, c'est l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, que maintenant tout le monde connaît un peu depuis la Covid, qui du coup va donner un nombre de verres standard par jour. Donc dans verres standard, c'est une certaine quantité d'alcool, donc
D'accord.
souvent c'est 10 grammes en gros d'éthanol. Donc ça va être un demi de bière, 4 centilitres de vin, quelque chose comme ça, et pour les alcools forts encore moins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un verre standard. Et donc l'OMS va dire, ben, c'est à peu près 3 verres standards pour les hommes et 2 pour les femmes par jour, mais 5 jours par semaine. Et après, donc, il y a d'autres préconisations qui vont s'ajouter. Par exemple, en France, on préconise aussi 2 jours d'abstinence par semaine d'alcool. Donc, ça va être comme ça et pas plus de 10 verres standards par semaine. Donc, voilà, c'est Santé publique France, je crois, qui a fait ces préconisations-là. Donc, il n'y a pas de règles vraiment établies. Mais il y a une quantité, en tout cas, on peut dire, à laquelle on peut se référer. Voilà. Après, il y a des outils de mesure qui existent pour voir justement notre consommation d'alcool, est-ce qu'elle est dangereuse, est-ce qu'on s'approche de la dépendance, etc. Je pense notamment à un outil qui s'appelle l'audit, qui est l'outil le plus utilisé. Donc, c'est en gros 10 questions sur lesquelles on va du coup dire ben, est-ce qu'on consomme le nombre de fois dans la semaine où on consomme, la quantité, etc. Et puis, il y a des scores seuil. Et passé un certain score, on dit ben là, consommation dangereuse d'alcool. Et là, enfin. Donc, on peut un peu prendre conscience de sa consommation. Après, je pense que chacun sait à peu près ce qu'il consomme. Ça peut dépendre aussi des périodes de la vie, des périodes des fêtes. Évidemment, ce n'est pas la même, on va dire, que le dry January quand on essaie de le faire. En gros, il y a des préconisations qui existent. Et après, c'est à chacun de voir aussi. Certains vont dire, ben, moi, au bout d'un verre, enfin, j'ai déjà tous les effets. Et voilà.
Ouais, moi dans ma famille j'ai quelqu'un qui boit un verre de cidre, il est KO. Mais par contre, je me rappelle, et maintenant ça me fait penser, c'est qu'après, à chaque fois qu'on allait au tennis, après les matchs de tennis, il buvait toujours, il y avait toujours une bière et un truc comme ça qui était bu après le match de tennis. Sérieux, et j'avais totalement zappé cette histoire de récompense au clubhouse, là, les trucs comme ça, il y a le clubhouse du truc de tennis, allez, tu vas boire un coup. Et c'est vrai que on a cette image-là. Enfin, en tout cas, moi chez des personnes, alors là je parle de personnes qui ont maintenant 70, 80 ans, je sais pas si chez les jeunes c'est encore le cas, parce que je pense que peut-être que en tout cas j'espère que certaines mentalités ça a évolué. Quoique, tu sais, moi je me rappelle quand j'étais étudiant, on faisait des soirées étudiantes, on était sponsorisés par les grandes marques d'alcool. Hein, les marques qui vendent du truc jaune, les marques qui vendent du truc qui finissent par un Y, whisky, tu vois, des trucs comme ça, là. On était tous sponsorisés par ça. Et bon, mon école où j'étais l'a interdit. Hein, mais on sait quand même. que dans les grandes écoles, dans plein de trucs, hein, y a tout ce phénomène-là. En plus, à mon époque, il y avait encore la cigarette. Alors, on avait plein de sponsors, hein. C'était magique. C'était pas les sponsors de la santé, mais on voit des évolutions quand même entre les jeunes, les plus âgés, etc., dans les tranches de la société, ou pas, où ça change beaucoup.
Alors, il y a une évolution de la consommation d'alcool. Oui, en gros, on va dire qu'avant, les gens consommaient de manière quotidienne, mais ils consommaient un verre de vin.
Ouais.
C'est les anciens où on dit un verre de vin par jour, c'est bon pour le cœur, etc.
ma mère qui me dit ça tout le
temps. Mais voilà. Mais donc, avant, ils consommaient plus souvent, mais on va dire de manière moins intense.
Ouais.
Alors que maintenant, les jeunes... Donc, il y a une grande partie maintenant des jeunes, ça se fait de plus en plus, qui ne consomment pas du tout d'alcool, comme ils ne vont plus aussi consommer de tabac. Donc, on va dire au niveau comportement de santé, il y a quand même quelque chose à voir là-dedans. Qu'est-ce qui se passe aussi, et tant mieux, on va dire en gros. Mais les jeunes vont consommer de manière moins régulière. Mais quand ils vont consommer beaucoup,
ouais,
de manière très intensive. C'est ce qu'on appelle le binge drinking. Alors, c'est un terme, c'est vraiment des alcoolisations ponctuelles importantes. C'est comme ça qu'on l'a traduit en français. C'est vraiment, le but, c'est l'ivresse. Le but, vraiment, donc ça va être consommé beaucoup en peu de temps pour se mettre dans un état second, comme on expliquait tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cette différence-là qui a été faite. Après, dans le milieu sportif, il y a eu quand même quelques réglementations. C'est-à-dire que je crois qu'en France, les marques d'alcool n'ont plus droit d'être sponsors. Alors qu'avant, elles étaient sponsors. Donc, ça a amené encore plus après-soirée, après l'événement sportif, ou justement, quand c'était une soirée organisée par une certaine marque d'alcool, du coup, tous les sportifs devaient y aller et accessoirement consommer. Ça me fait penser à Cristiano Ronaldo aussi, à une conférence de presse où il y avait Coca devant lui qui a éloigné toutes les bouteilles de Coca pour mettre des bouteilles d'eau, etc. C'est un geste assez particulier. Mais en tout cas, en gros, au niveau réglementaire, je crois qu'il n'y a plus droit d'avoir comme sponsor des marques d'alcool. Bon, il y a encore certaines compétitions, mais la H-Cup aussi.
Ouais,
en rugby.
On parlait du rugby, mais c'est vrai que dans les stades, il y avait les trucs d'avoir d'alcool dans les stades de foot, parce que là, c'était une sorte de l'histoire de la violence. Mais les gens, on leur dit « oui, vous allez bière sans alcool ». Et moi, j'étais dans des stades de foot, et les gens, ils faisaient la gueule quand on leur a dit « vous n'avez plus le droit de boire d'alcool ». Et le pire, c'est qu'en loge, il y a du champagne, il y a une espèce de monde qui est vraiment drôle, parce que quand tu vas à la buvette, t'as pas le droit, mais tu vas dans les loges. Moi, j'ai vu les carrés partenaires, sponsors et tout, il y en avait. Après, et j'ai vu les joueurs, et là, vraiment, je peux le dire, alors peut-être pas maintenant, je sais pas comment ils sont, mais il y a quelques années, où je voyais les joueurs à la fin du match, ils venaient. Certains buvaient un petit coup avec les sponsors, avec les partenaires. Alors tous, non, pas tous, mais il y en avait certains, ils cumulaient le truc, c'est qu'ils allaient se planquer pour fumer une clope derrière la cheminée du chauffage du stade, et en même temps ils buvaient une bière. En termes de récup, je sais pas, ça me semblait pas être la meilleure des récups, franchement. Bon, après c'était performant, ils étaient premiers du championnat, enfin tu vois, on pouvait pas trop leur dire grand chose, même si des fois tu peux te dire quand même c'est surprenant, tu vois, vu comme ça, c'est surprenant de les avoir à ce comportement là quoi.
Oui, tout à fait. Après, donc peut-être pas au niveau, mais on a tous, dans les équipes aussi, notamment de rugby, genre du Sud-Ouest, je vais parler de ce que je connais mieux. Il y a vraiment aussi dans certaines équipes, des fois, qui sont là juste parce qu'ils consomment beaucoup d'alcool, ou qui savent tenir la barre, ou parce qu'ils sont drôles, ou parce qu'ils mettent d'ambiance, etc. Il y a toujours dans certaines équipes cette personne-là, donc qui est... encore une fois, un peu vu de manière positive, on va dire, par le reste de l'équipe, et qui va, justement, après les matchs, mettre l'ambiance, inciter tout le monde, peut-être, à boire un verre. Donc c'est vrai que ça peut paraître contradictoire, et pour avoir assisté à plusieurs matchs aussi, c'est très drôle dans les stades, alors qu'on sait que c'est de la bière sans alcool, quand on voit certains supporters qui sont ivres. Donc on se demande, soit ils ont bu avant, soit ils ont juste, ils pensent vraiment, ils sont désinhibés, mais en fait ils étaient désinhibés déjà sans alcool. Donc ça, c'est assez drôle. Mais oui, dans les loges VIP juste après, pour certaines personnes, l'alcool est quand même là.
Et ça me rappelle aussi que le nombre d'anciens sportifs de haut niveau qui ont des bars, des restaurants,
ouais,
qui ont ouvert ça. Et alors moi, je vais te dire, moi je suis à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, le bar de mon bon, pas mon adolescence, mais mes années étudiantes, s'appelle Gormenz. Et ceux qui sont à Clermont, ils se rappelleront du Gormenz. Ils verront l'image du Gormenz qui a été ouvert par des anciens joueurs de l'ASM, dont un qui s'appelle Philippe Saint-André quand même et sa famille. Et je parle là d'un ancien sélectionneur de l'équipe de France. Attention. Je te jure, les soirées après les matchs et tout, mais c'était hallucinant. Enfin, c'était hallucinant. Alors, je parle d'une époque, moi j'en ai 47, donc je parle il y a 25 ans. Mais je suis pas certain que ce genre de truc ne continue pas, alors peut-être dans d'autres lieux et tout, mais en tout cas à l'époque c'était juste hallucinant, c'est-à-dire que ça faisait vraiment partie du package, il y avait vraiment le gros package, t'attendais les joueurs, il y avait les bouteilles dans tous les sens, etc. C'est vrai que le rugby a beaucoup valorisé la troisième mi-temps, peut-être qu'on en parle moins dans d'autres sports, mais il n'y a pas de raison que dans les autres sports non plus, il n'y ait pas de ça. En fait,
lié quand même. Hein. Ouais. Moi, j'avais fait du coup une étude sur les étudiants sportifs et c'était pas forcément du rugby où ça consommait le plus. Il y avait le foot qui arrivait pas mal et le hand aussi. Mais en fait, dans les sports collectifs en général, hein, la troisième mi-temps, elle est là. Mais il y a une dimension un peu épicurienne aussi, j'ai l'impression, du sport, de l'alcool, de la bonne nourriture, qui intervient aussi. Peut-être que ça peut expliquer pourquoi ils ouvrent ce type d'établissement après carrière, mais c'est vrai que ouais c'est là quoi, c'est souvent aussi mis en place par l'environnement sportif. C'est pour ça que nous on essayait aussi de faire de la prévention auprès des gens qui encadrent aussi les sportifs, c'est-à-dire que souvent soit ils laissent faire, soit même dans le pire des cas ils incitent dans les repas des clubs, etc., où il y a de l'alcool, enfin, on se dit, là, peut-être, soit peut-être limiter la quantité, ou en tout cas, je sais pas, essayer de limiter des moments, mais parce que les joueurs savent très bien s'alcooliser sans eux, mais en tout cas, des fois, l'encadrement aussi participe, on va dire, en tout cas, à cette consommation.
Mais j'ai envie de dire, on a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les entreprises pour éviter l'alcool dans les entreprises, pour des raisons de santé, mais aussi d'accidents du travail. Enfin, moi, c'est vrai que l'image, tu vois, bon, je suis Clermontois, on avait les usines Michelin, il y avait une usine, trois bars en face. Enfin, c'était à peu près le quota, l'espèce de ratio. Je les vois bien parce que j'habitais au milieu, moi. Donc, tu vois, je les vois, les bars, et à côté, il y avait le lycée aussi. Et combien j'ai de copains qui sont allés en cours de maths en ayant bu trop de Beaujolais nouveau, et franchement, un bon paquet. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits dans les entreprises quand même pour dire on n'a plus le droit de boire d'alcool à la cantine, plus le droit de boire d'alcool aux pauses. On rigolait même avec Bruno Bi en disant à une époque l'alcool était servi dans les écoles. Il y a très très longtemps. Donc il y a eu un travail qui a été fait quand même sur la société pour essayer, j'ai envie de dire, de faire ça. C'est-à-dire que dans le sport aussi, il y a ce travail-là à faire quand tu dis les éducateurs, dire peut-être dans les repas d'après-match, éviter de les inciter. Quoi. C'est aussi cette prévention-là. Quoi.
Mais c'est ça, parce que nous on s'est intéressé aussi au contexte de consommation, parce que comme tu disais, dans les entreprises on fait ça mais pour éviter les accidents du travail. En gros, la consommation chez les sportifs elle arrive après match. Donc c'est la période où justement ils vont pas aller retourner si tu veux sur le terrain, donc il va pas y avoir de blessures, ou en tout cas ça va être des blessures on va dire liées au sport. Et c'est vrai que oui, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est vrai que l'environnement sportif peut essayer de jouer un rôle. Ça pourrait être important. Je crois que c'est Arsène Wenger qui avait interdit à ses joueurs de consommer après match à Arsenal. Justement, il s'était rendu compte de ça à l'époque. Donc, je me dis que on peut s'en rendre compte assez facilement quand on est dans le milieu sportif, comme tu disais, quand on se rend dans les loges après match, etc., où on voit les joueurs consommer. Donc, on peut se dire que si ça commence par les personnes qui entourent les joueurs, si elles limitent ces moments-là, ça ne peut être que mieux.
C'est vrai, je suis en train de faire une recherche. Arsène Wenger avait banni l'alcool et le gras aussi. Dans le vestiaire. Mais en fait, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il s'est quand même rendu compte que. Son capitaine ou un de ses leaders de son équipe, quand même, qui était en état d'ivresse, qui avait explosé sa voiture. Et donc, au bout d'un moment, le club se dit il va falloir qu'on réagisse. Parce que. C'est vrai qu'on a vu des accidents de voiture d'ailleurs, de joueurs qui sont. Certains sont même morts après des matchs et tout. Et on se rend compte qu'ils étaient quand même dans des états qui n'étaient pas très normaux. Donc ça veut dire que C'est vrai que cette prise de conscience, des fois, peut arriver peut-être un peu tardivement dans, au sein des clubs et tout. Comme tu dis, ça arrive souvent après. Et on prend dans tous les sports, hein, parce que dans la course à pied, il y a la fameuse bière de récup qui a l'air d'être un petit peu le... c'est drôle, parce que j'ai enregistré un épisode de podcast. Est-ce que c'est efficace ou pas efficace? Peut-être mentalement, hein, mais après, sur la vraie récup, ça, c'est... personne ne m'a dit que c'était super efficace jusqu'à maintenant. Hein, mais en tout cas, si, mentalement. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu sur les courses, après les trails, tu peux discuter. Et des fois, ça peut être une soupe, ça peut être des boissons, il peut y avoir à manger, etc. Il n'y a pas forcément de l'alcool sur tous les trails. Mais par contre, j'ai vu des courses où même on offre des bouteilles. Alors, ça dépend des régions. Dans les régions viticoles, bon, au Marathon de La Rochelle, ils offrent des huîtres. Moi, quand tu vas faire une course vers Narbonne, ils offrent une bouteille de vin, etc. J'ai trouvé ça surprenant, tu vois, d'ailleurs. Sur le coup, je me suis dit, oh, c'est bizarre quand même. Après, bon, c'est sûr que c'est entouré de plein de. J'imagine à Reims aussi, ils doivent offrir des trucs comme ça. Mais il y a des régions en plus où culturellement il y a des alcools qui divergent, mais je pense que chaque région a son alcool. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une région qui est vraiment épargnée, même s'il y a quelques régions qui picolent un peu plus que d'autres. Hein.
Oui, mais dans les études en France, en tout cas, on sait que c'est souvent la Bretagne, les Hauts-de-France et le Sud-Ouest qui arrivent en tête. Hein. Mais ouais, c'est encore une fois, comme on le dit, hein, ça fait partie de la culture. Donc évidemment, je pense que selon le club aussi où des joueurs vont, ça va pas, ça peut influencer aussi. Ben encore une fois, il y a la cohésion du groupe, la cohésion d'équipe. Est-ce que s'ils tombent dans une équipe où ben boire de l'alcool, c'est pas forcément perçu comme quelque chose de hyper positif, ou alors ben, boire une bière et puis pas forcément de se mettre dans des états, parce que comme tu disais, il y a beaucoup de conséquences négatives. Et je pense que ben les ligues, on va dire, des fois peuvent taire certains trucs, mais il y a beaucoup de violence aussi hein, qui arrive de par l'alcool. Et on peut imaginer qu'un joueur de rugby qui est assez grand, assez fort, quand il est sous alcool, voilà, ça va être assez compliqué, on va dire, à gérer. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de conséquences négatives hein, où la consommation d'alcool peut y avoir. Encore une fois, le but, c'est pas de dire ne consommez pas d'alcool, mais c'est que en fait, c'est des quantités tellement énormes que évidemment il y a des effets délétères qui arrivent. Il y a en sport, on peut parler des blessures, de la fatigue. Il y a plein de choses comme ça, de la récupération qui est pas optimale, la diminution des performances. Et en gros, tout ça va à l'encontre de ce qu'on peut imaginer d'une image du sportif qui est d'essayer de se surpasser, d'essayer d'être meilleur, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, on va dire, à approcher parce que, ben, souvent, moi, on me riait au nez hein, quand je faisais ma thèse, parce qu'on me disait, ben oui, évidemment, les sportifs, ça consomme de l'alcool et adore. En plus, ben, Sud-Ouest, rugby, troisième mi-temps, donc c'est vrai, mais j'étais là, oui, mais des quantités quand même, on parle de quantités vraiment énormes. Et il y a quelque chose aussi qui joue sur cette consommation-là, c'est ce qu'on pense que les autres consomment. C'est-à-dire que quand on est dans une équipe, quand on regarde ses coéquipiers, on se dit « Oh là là, mais ils consomment vraiment beaucoup plus que moi ». Et donc, il va y avoir un phénomène où les joueurs vont essayer d'atteindre la consommation qu'ils pensent que leurs coéquipiers ont. Moi, quand j'ai travaillé du coup dans le rugby, donc on avait fait sur Top 14 Pro D2, surtout, on avait demandé aux joueurs et les joueurs, en moyenne, pensaient que leurs coéquipiers consommaient deux fois plus qu'eux et avaient quatre fois plus d'épisodes de binge drinking que eux. Parce qu'en fait, ils pensent qu'ils consomment tellement qu'en fait, ils vont essayer un peu aussi de élever leur niveau de consommation pour essayer d'atteindre un peu un imaginaire. Et du coup, une des premières interventions qu'on avait fait, c'était de dire, ben, vous pensez que vos coéquipiers consomment tant d'alcool par semaine. En réalité, ils consomment pas deux fois moins, mais ils consomment un petit peu moins. Et on s'était aperçu que rien que de dire ça, ben, du coup, certains joueurs avaient consommé moins juste après.
Ouais. C'est fou ce truc-là. Et tu vois, pour revenir sur l'histoire du foot, il dit quand même, et tant que dans les années 90, à Arsenal, et je comprends que Wenger, ils sont intervenus quand même dans l'histoire. Donc tous les mardis, c'était la soirée binge drinking. Alors, il faut quand même imaginer une équipe de foot. C'est-à-dire que les mecs, ils ont un match tous les vendredis, les samedis ou les dimanches, ça dépend. Des fois, ils ont la Coupe d'Europe. Alors, je pense que le mardi, ils ne devaient pas boire s'ils avaient la Coupe d'Europe le mercredi. Et il y a un joueur qui dit qu'ils étaient capables de s'enfiler jusqu'à 30 pintes dans un week-end.
Ah ouais, non, mais c'est des quantités vraiment...
30 pintes de bière, ça fait 15 litres.
Ouais. Nous, on en avait qui consommaient, plus de 70 verres en une soirée. Hein.
Oh.
Ouais.
Ah
Non,
bah
non,
c'est...
c'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure, c'est pas juste la consommation d'alcool, c'est la quantité qui est énorme. Et il me semble justement que quand je disais tout à l'heure qu'il y avait un ancien joueur de foot qui avait ouvert un peu un centre addicto, c'était un ancien de l'équipe d'Arsenal justement. Et je sais pas si c'est pas un ancien capitaine.
Ouais, peut-être qu'il y a des trucs parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des espèces de cette sorte de tradition un petit peu. Bon, les légers ils sont en train de se dire bon, attends, nous on n'est pas dans ces situations-là quand même. Moi j'aime bien
Ouais.
boire un petit coup de temps en temps, une petite bière avec les copains, un petit verre de vin à midi avec mon petit steak ou mon petit tofu, j'en sais rien quoi, ils le boivent. Je m'en moque un petit peu. Non, je vais pas rentrer dans les débats entre végétariens et tout aujourd'hui, hein, on va passer là-dedans. Mais il y a un truc quand même, c'est que c'est, tu disais, bon, on a à peu près la consommation de 3 verres par jour, 5 jours par semaine maxi, c'est ça à peu près. À partir de là, après, on commence à rentrer dans un autre monde. Est-ce qu'il y aurait des jours, tu vois, par rapport au sport, se dire, il vaudrait peut-être boire à tel moment, éviter dans d'autres moments, tu vois. Est-ce qu'on a des règles, des choses comme ça qui ont été bâties un peu, construites?
Alors, je ne sais pas s'il y a des règles officielles, mais nous, dans ce qu'on avait analysé, toujours pareil, en parlant des contextes de consommation, donc comme on disait qu'ils consommaient souvent ben, après un entraînement ou après les matchs, et non pas avant, et ben, ils vont consommer aussi un peu plus hors saison, ou en tout cas, ils ne vont pas consommer à l'approche d'une grosse compétition ou s'il y a un gros match le lendemain. Donc, je pense que c'est pas une règle officielle, mais après, c'est du bon sens et de la logique aussi des joueurs. Parce que, encore une fois, le but pour eux, c'est pas forcément de performer au niveau d'alcool, c'est de performer au niveau sportif. Ils ont enfin, sacrifié toute leur vie, c'est une grosse partie de leur vie, hein, juste pour pouvoir réaliser des performances, etc. Donc, c'est vrai que la consommation d'alcool va s'adapter au contexte et donc ça va être plus ben, quand il n'y a pas, on va dire, de grosses échéances qui arrivent.
Ouais, c'est-à-dire que le dernier jour, quand ils ont gagné le match, la finale,
Ouais.
et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu un documentaire ce week-end sur les secrets de coach. Il y avait le coach des Celtics de Boston, où on voit, lui dit, il a pas fêté la victoire en NBA avec ses joueurs, mais on voit les images où ils ont les grosses bouteilles de champagne, où il y a tout le truc comme ça. C'est comme on avait les images de Michael Jordan qui fumait des cigares, mais lui, avant les matchs, enfin, dans la semaine avant les matchs de finale, ce qui l'a pas empêché d'être le meilleur joueur du monde et de gagner la NBA X 6 fois, mais il y avait un petit peu ce truc aussi de dire, ça revient aussi sur la malbouffe, un peu, tu vois, sur le même truc. On a vu des sportifs de très haut niveau. On disait que Michael Phelps, il mangeait 10 000 calories, mais des McDo en pagaille pour arriver à manger. Que, comment il s'appelle, Usain Bolt, mangeait des chicken McNuggets avant de courir 100 mètres. Enfin, tu vois, des trucs en disant, mais eux, ça a l'air de passer, quoi. Ils ont l'air de faire ça a l'air de passer. Ils sont quand même performants et tout. Ça doit pas être si grave. Un peu l'impression de temps en temps qu'on a ce discours-là, non?
Je sais pas au niveau de l'alcool vraiment parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas forcément. On va pas cibler un joueur et dire sa consommation à lui, c'est ça. Oh, je viens de voir un tel se boire une pinte avant d'aller sur le terrain. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus en effet encore une fois de groupe qui intervient en tout cas sur la consommation d'alcool et on sait c'est un comportement social hein, la consommation d'alcool beaucoup plus en tout cas que la nourriture ou ce que tu viens de citer. Donc, je sais pas du tout. Après, je me dis, est-ce qu'un joueur connaît, sait son état, maîtrise son corps, maîtrise son mental, et du coup, sait qu'il peut s'accorder aussi, encore une fois, je pense que on disait tout à l'heure, il y a des préconisations sur le nombre de verres, mais comme tu disais, au bout d'un verre, certains savent que c'est leur limite, etc. Donc, est-ce qu'eux-mêmes... En fait, c'est une machine leur corps, hein. C'est leur petit travail. Est-ce qu'ils se connaissent tellement bien que bah, du coup, ils peuvent se dire bah, je vais m'autoriser un demi avant de rentrer sur le stade et ça va rien changer. Et peut-être même, ben, dans certains sports, c'était un peu considéré aussi comme une substance dopante d'alcool, notamment au tir, parce que ça peut éviter les tremblements. Donc, est-ce qu'il peut se dire, ben, si je consomme, ça va m'aider, je sais pas.
Ouais, et ça, on en a parlé avec Bruno Obi, justement, et il ne le savait pas, c'était drôle, c'est marrant. C'est vrai que le tir à l'arc, par exemple, c'était un produit dopant,
Oui.
et c'est encore considéré comme un produit dopant, je crois, d'ailleurs. Hein,
Oui, c'est sur la liste chaque année
ouais.
des produits dopants.
J'avais vu tir, pistolet, des choses comme ça, je crois que c'était enlevé quand même dans certaines choses. Le golf aussi, il me semble, l'alcool était interdit, ou pouvait être considéré comme produit dopant à une époque, enfin, il y a des choses comme ça. Mais même en course à pied, je crois avoir vu à une époque, on considérait aussi potentiellement, hein, mais en fait, c'est vrai que j'ai pas de mal à le croire sur les sports où s'ils demandent une grande maîtrise des nerfs, éviter les tremblements, le stress, etc., où on puisse aller chercher ce genre de choses. De même que on pourrait dire sur des substances type cannabis ou autre, je pense. On a vu des sportifs dans certains de ces sports-là, justement, où ils utilisaient ça aussi pour l'entraînement, quelque part. C'est presque banalisé, parce qu'on a eu un commentaire sur une chaîne YouTube sur l'autre jour, là, disant oui, mais le dopage. On est obligé d'y passer par là pour être performant. C'est pas comme ça. Hein. C'est comme, tu vois, j'avais la réflexion quand tu parlais, je me disais, putain, si t'es un première ligne au rugby, que tu joues dans une équipe du Sud-Ouest et que t'es à la troisième mi-temps, au bout du premier verre, t'es capoute, tes coéquipiers, quand même, ils doivent te mettre bizarrement, quoi. Enfin, socialement, ça va être pas facile, cette histoire-là, quand même, pour certains. De résister en plus.
Ouais, c'est ça, c'est que l'alcool, comme on disait, il y a dans certaines équipes en tout cas, ça va être bien vu, ceux qui arrivent à encaisser. Donc, je pense que dans la consommation d'alcool, certains vont voir un certain dépassement de soi aussi. Comme on peut avoir en sport, de se dire, ben, je peux consommer autant, etc. Il y a aussi, on va dire, le côté compétitif, hein, qui peut ressortir de ben, moi, je vais battre tous les coéquipiers, je vais être celui qui va boire le plus grand nombre de shooters. Je pense qu'il y a des valeurs qui peuvent se ressembler et du coup être interprétées. Voilà, après, c'est toujours dans des contextes, on va dire, festifs, de détente, etc., où l'alcool va ressortir.
Est-ce que, enfin, tu vois, quelqu'un qui se dit bon, je bois un peu trop, enfin, tu vois, ou j'aimerais essayer, tu vois, mais j'ai du mal à m'en passer, tu vois, on pourrait dire. Mais sans être, tu vois, c'est juste la bière de fin de journée, tu vois, on va dire, ou des trucs comme ça. C'est quoi la stratégie en fait pour lui? Ça serait quoi? Il y aurait des stratégies un peu comme ça de dire, bah tiens, tu peux réduire un peu ta quantité.
Bon, en fait, chacun fait comme il veut, selon ses objectifs. Ben, il y a des techniques qui existent d'intervention, de prévention, etc. Nous, on va dire, ça va beaucoup se baser sur, ben, en gros, quand on consomme de l'alcool, surtout en addiction, etc., c'est la pire des substances. Parce que c'est une substance qui est partout, c'est une substance qui est banalisée, c'est une substance qui a une image positive, etc. La personne va tout le temps être soumise à cette substance-là. Et du coup, c'est vrai que c'est très dur d'en sortir une fois qu'on tombe dans l'addiction. Donc déjà, ben, ça va être d'essayer au maximum d'éviter de tomber dedans. Hein. C'est facile à dire. Mais du coup, à partir du moment, j'ai l'impression où on se met nous-mêmes une limite en mode là j'ai consommé tout seul chez moi un lundi soir, peut-être que je pense que ça peut être un bon rappel de se dire là je vais faire attention. Donc après c'est selon les objectifs de la personne, si elle veut se mettre une certaine quantité à ne pas dépasser par semaine, ou alors se dire ben je vais consommer que quand je suis avec des gens et pas tout seul. Franchement, chacun fait comme il veut. Nous, dans les techniques en tout cas, ça va être de se dire on va pas diaboliser l'alcool. L'alcool c'est une substance, ok, si la personne consomme c'est forcément qu'elle y trouve des avantages. Donc, on va essayer de répertorier, mais quels sont les avantages à cette substance pour vous? Donc, ça va être souvent ben, le pouvoir des inhibiteurs, le côté festif, le côté d'être avec du monde, etc. Ça va être ben, peut-être faciliter les rencontres amoureuses. Ça va être plein de choses vraiment diverses et variées. Et après, on va dire, OK, si vous souhaitez maintenant arrêter, c'est que vous avez repéré certains inconvénients aussi à cette consommation. Donc, on va essayer d'explorer avec eux les inconvénients. Donc, ça va être souvent ben, la fatigue, des blessures, le côté économique aussi, de dépenser de l'argent, le côté social. Peut-être que ça va. Certaines personnes vont en avoir marre de voir la personne saoule chaque soirée et du coup vont l'éviter. Ça peut être ben, le côté aussi sur la santé où on s'aperçoit ben, qu'on récupère moins, qu'on est plus essoufflé. Enfin, voilà. Et en fait, on va jouer avec cette balance-là de dire OK, ben, vous avez ces avantages-là, ces inconvénients. Peut-être que vous avez plus d'avantages que d'inconvénients, mais les inconvénients, en tout cas, ont l'air d'être suffisamment importants pour vous. Et donc après, c'est vraiment, encore une fois, c'est tout un chacun qui voit. Et si, du coup, ça peut être remplacer la bière par une activité, ça peut être se dire, tous les deux verres, je me force à boire un verre d'eau. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment selon les objectifs de la personne. Nous, on peut conseiller, mais on ne va pas agir pour la personne. Et c'est vraiment la personne qui voit et qui se sent.
Ouais. J'avais vu aussi que la retraite, on parlait tout à l'heure de la retraite des sportifs, où c'est pas facile, ouais. Où il y a le stoppage, mais la retraite des salariés, des chefs d'entreprise aussi, j'avais vu qu'il y a aussi des points, genre un cadre qui travaille pendant des années, qui d'un coup se retrouve à la retraite. C'est pas facile à gérer cette période-là. Là aussi, il y a des cas où l'alcool peut devenir un truc, enfin, pas une récompense dans ce cadre-là, mais un palliatif ou quelque chose pour gérer ça. Enfin, j'en sais rien, non?
Ouais, là, j'ai l'impression que c'est plus un peu le côté hors de la réalité.
Ouais.
Qui va faire un effet, genre, là, j'ai un peu envie d'un moment où je suis plus dans ma vie de tous les jours, où je m'aperçois que mes journées sont infinies, où je m'aperçois que je me suis un peu isolée du reste. J'ai un peu envie de sortir de ma réalité, du coup, je vais consommer d'alcool. Bien sûr, ça peut arriver à n'importe qui, c'est sûr.
Ouais. On disait, il y a des sports quand même, tu parlais des sports collectifs, donc tu disais le foot, rugby, le hand. C'est bizarre, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est physique quand même. C'est des sports quand même, qui sont assez physiques aussi. Il y a cette espèce de le hand de haut niveau, c'est vraiment un truc de bourrin, quoi. Enfin, il y a pas à dire, ils se foncent dessus. Il y a des sports qui sont plus épargnés, enfin, on veut dire, enfin, tu vois, où finalement on n'a pas trop, on voit moins ces soucis là.
Ouais, il y a la danse.
Ouais.
Parce que je pense que au niveau musculature, etc., déjà les sports individuels, j'ai l'impression des fois sont un petit peu plus épargnés, dans le sens où la performance, elle va être individuelle, comme son nom l'indique, alors que des fois dans le collectif, on peut compter aussi des fois sur les coéquipiers.
Ouais.
Bon, on va se dire qu'on n'est pas tout seul et que du coup, une performance, c'est une performance collective. Dans le sport individuel, si le corps, le jour même de la compétition, il n'est pas au top niveau, c'est que le sportif lui-même qui va du coup avoir les répercussions de celle-ci. Donc, c'est vrai que la danse, l'athlétisme aussi, mais en fait, tous les milieux où le musculaire joue vraiment. Parce que l'alcool va jouer sur le musculaire, sur la récupération, sur tout ça. Et aussi, on va dire, c'est des sports où des personnes ont moins de... par exemple, vont être plus minces. Donc, ça va directement jouer sur les muscles.
Ouais.
Alors qu'au rugby, on va dire, dans certains postes, l'apport en graisse va faire que aussi, il va y avoir besoin de plus de quantité d'alcool pour avoir des effets. Alors que sur certains sports où de poids joue, même en boxe, etc., ça va peut-être impacter directement la personne dès le premier verre, comme on disait.
Ouais, oui, il faut rappeler quand même qu'en rugby, on a des gros bébés qui courent très vite et qui font 100 kilos, 110 ou 120 kilos. Même des joueurs qui paraissent pas. Hein. Franchement, moi, pour en croiser certains, 96 kilos qui courent comme un lapin.
Ah non, mais oui. Ce qu'on perçoit comme un petit sur le terrain, en réalité,
ouais,
et
je peux le dire, parce que ceux qui sont à Bordeaux maintenant, qui découvrent un joueur comme Penaud, par exemple, se découvrent que c'est un joueur qui est très grand, qui court très vite, mais qui est aussi très lourd, finalement, quand il ne faut pas se le prendre en pleine face. Hein, qui court à une vitesse incroyable, mais qui n'est pas léger, comparé à ce qu'on voit, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de l'athlétisme, on voit des gars à 60 kilos. Là, on a des gabarits qui sont beaucoup plus lourds. Et c'est vrai que par rapport à l'alcool, j'imagine que ça joue énormément aussi, ces gabarits, c'est tout ça, quoi.
Mais c'est ça, la morphologie n'est pas du tout la même. Donc, c'est sûr que l'alcool ne va pas du tout impacter un boxeur qui doit rentrer dans une certaine catégorie de moins de 50 kilos avec un rugbyman qui en fait 120. Donc, c'est vrai que là, c'est la logique. C'est comme ça, c'est physique. Donc, c'est vrai que dans les sports collectifs, comme on disait, il y a très peu de sports collectifs où le poids a vraiment... avoir un impact, mais on n'est pas au kilo près.
Ouais.
Alors que dans certains sports, on est au kilo près.
Ouais.
Et donc, c'est plus là aussi où j'ai l'impression que peut-être que la consommation d'alcool va se faire plus facilement dans le sens où l'impact ne va pas être autant direct que dans certains sports individuels notamment.
Pour l'anecdote, je le dis, deux sports totalement différents. Kylian Jornet dit qu'il n'aime pas le vin, mais il aime bien la bière de temps en temps et une raclette, ça fait partie de sa diététique. Alors, c'est un article que j'avais trouvé. Et tu vois, de l'autre côté, mais c'est quelqu'un, un sportif qui est adoré par les Français, qui s'appelle Teddy Riner, avait dit un jour qu'il n'avait jamais connu la gueule de bois. Il n'avait jamais connu l'excès d'alcool, etc. Et pourtant, on a vu, lui, tu vois, et c'est des reportages où on voyait que. Il avait une relation au sucre, par contre, qui n'était pas facile à gérer pour lui. On a vu des reportages, ça a fait beaucoup parler, où on le voyait, se goinfrait et tout. Alors lui, par contre, en catégorie de poids, il est toute catégorie. Donc, il fait pas partie justement du judo. Tous les judokas ont problème de poids, de rentrer dans le poids, sauf toute catégorie comme lui. Et donc, ce qui montre quand même qu'il avait... lui, manger pour lui, il dit c'est sacré, mais il était plus sur le sucre. Et pas sur l'alcool. Donc il y a un côté aussi culturel, éducationnel, peut-être les rencontres qu'on fait ou je sais pas quoi qui doit jouer là-dedans.
Ouais, tout à fait. Puis il y a aussi la première fois où on prend certaines substances, le réconfort qu'on y trouve. C'est comme pour tout, on ne tombe pas dans une substance par hasard. C'est-à-dire que peut-être que, comme tu dis, quand on mange du sucre, ça renvoie à un truc vraiment cocon, à un truc où on se sent bien, c'est réconfortant au possible. Et peut-être que c'est cet effet-là dont lui a besoin et a moins besoin de l'effet désinhibiteur où ça, pour lui, c'est vraiment pas ce qui est recherché. Alors que quelqu'un, un autre sportif, va se dire, moi, je veux que le côté désinhibiteur et le côté réconfortant, je m'en fous un peu. Donc, ça va dépendre vraiment de tout un chacun. Et pour revenir à l'addiction, enfin, on parle des fois des paris en ligne, des jeux, etc. Un addict au jeu, il n'est pas tombé dedans par hasard, c'est qu'il a gagné une première fois.
Ouais.
Souvent très tôt, il se dit « Oh purée, c'est super, on peut gagner vraiment plein d'argent hyper facilement. » Et après, tout le reste de sa vie, il va essayer de reconnaître ce moment. Donc souvent, c'est en tout cas, pas tout le temps, mais souvent, c'est ça. Il y a une première expérience qui va être positive, où on va se dire « Oh là là, ça a eu vraiment l'effet que je recherchais, j'ai réussi à l'obtenir. » Et à partir de là, on va tout le temps essayer de réobtenir cet effet par la substance.
Et est-ce que finalement on peut être addict au sport? Vraiment? C'est une vraie addiction en fait?
Oui. Ouais. Quand on parle d'addiction, on a souvent en tête les anciennes addictions qui sont toutes liées à la substance, donc drogue, alcool, tabac, etc. Depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on parle des nouvelles addictions qui sont des addictions, on va dire, plus comportementales, l'addiction au travail. Donc ça s'étudie beaucoup au Japon où ils font des horaires, laisse tomber, pas de vacances, etc. Mais c'est une vraie addiction au travail, l'addiction même au café, l'addiction et du coup l'addiction au jeu et l'addiction au sport qui est comme toutes les addictions en fait. C'est pas forcément une quantité ou une intensité qui va faire qu'on est addict, c'est vraiment les répercussions que ça va avoir. C'est-à-dire qu'un addict au sport, il va être blessé. Il va continuer de s'entraîner. Il va se faire plus mal. Ouais. Il ne va pas pouvoir s'en passer. C'est vraiment pas juste dire addict parce qu'il court tant d'heures par semaine, tant de kilomètres. C'est vraiment les répercussions que ça va avoir. C'est souvent des répercussions soit économiques, soit sociales, soit physiques. Il va y avoir vraiment une grosse répercussion. Donc l'addiction au sport existe.
Ouais, parce que tu vois, moi j'avais vu un reportage sur la bigorexie, donc cette fameuse addiction au sport, et j'avais trouvé le reportage de M6, je crois que c'était M6 qui avait fait ça, qui était nul. En fait, ils montraient des jeunes dans une salle de sport, et qui faisaient une heure de sport par jour, et en disant, est-ce qu'ils font, ils sont bigorexiques parce qu'ils font une heure de sport par jour et tout. Bon, j'ai trouvé ça quand même super gonflé de leur part, parce que à la limite, je préférais que ces jeunes ils soient bigorexiques qu'alcooliques, tu vois, mais en plus, ce qui l'un n'empêche pas l'autre malheureusement, mais en tout cas, qu'on les valorise, tu vois, de dire ils prennent soin de leur corps, ils font du sport et tout, tu vois, et une heure de sport par jour, s'ils le font en faisant de la sécurité, en se reposant et tout, c'est pas de l'addiction, quoi.
Non. Normalement non, mais encore une fois, si c'est une heure de sport par jour et le jour où ils sont blessés, etc., ils sont exécrables, ils se coupent de tout le monde, normalement pour une heure de sport ça n'arrivera pas, mais c'est plus les répercussions que ça a. Mais dans l'alcool, on a l'alcoolorexie. Qui se fait beaucoup chez les jeunes. Après, on peut mettre des étiquettes à tout et c'est un certain type de comportement qui existe. En gros, c'est certains vont s'empêcher de manger.
Ouais.
Parce que l'alcool, du coup, va avoir un apport au niveau calorique. Et du coup, si on veut contrôler son poids, et qu'on veut boire de l'alcool, on ne va pas manger pour avoir juste les calories apportées par l'alcool. C'est l'alcoolorexie.
D'accord.
Donc après, il y a des noms pour tout, mais
Ouais,
voilà.
mais alors là, par contre, ça, c'est un sportif fait ça. Là, par contre,
Ah oui, non, c'est vrai.
il est foutu, quoi.
Ouais, c'est pour ça.
Ah ouais.
Enfin, si on parle d'un sport où genre chaque kilo est important, là, c'est pas possible. Niveau musculaire, etc., ça va très vite se voir et les performances, elles vont chuter de fou. Donc,
Pour terminer, les conséquences psychologiques, toi, de l'alcool au quotidien, parce que on a beaucoup ces images de l'alcoolique alors je veux dire en manque, je sais pas si c'est le bon terme ou pas, mais qui cherche la bouteille, qui après tu retrouves ivre et qui arrive, qui recommence en permanence, etc. Mais sans aller jusque-là, en fait, il y a des conséquences plus légères, j'ai envie de dire. Tu vois, tu parlais des désagréments tout à l'heure qu'on peut avoir et tout. On a des conséquences plus légères à partir d'un certain niveau.
Ben oui, on va avoir la gueule de bois, la fatigue. Ben, avoir après, là, tu vas me dire, il n'y a pas trop de steps, mais par exemple au niveau économique aussi, l'alcool c'est un certain coût, donc ben, peut-être qu'on va acheter d'alcool, mais moins acheter à manger ou des choses de première nécessité, comme on pourrait penser. Il va y avoir au niveau social, on va commencer à se couper de certaines personnes ou certaines personnes vont s'éloigner de nous parce que ben, on consomme et qu'elles ne veulent pas forcément voir ça ou qu'elles en ont trop pâti. Va y avoir plein de conséquences. Donc après, on peut pas mettre forcément de step, enfin d'échelle, de score, de ah ben ça c'est plus important parce que ça va dépendre de tout un chacun. Mais en tout cas, oui, il y a des conséquences. Il y a des conséquences
Ouais.
de l'alcool qui peuvent arriver très vite. Hein.
Tiens, je pense à l'alcoolorexie, mais ça me fait penser à l'anorexie et tout.
Ouais.
Ça touche plus les femmes ou les jeunes filles que les garçons ou pas?
Alcoolorexie, oui, chez les jeunes, oui.
Ouais.
Anorexie, il y a un type d'anorexie qui est lié aussi au sport. Hein. L'anorexie sportive, l'anorexie mentale, c'est beaucoup chez les sportifs où justement, mais comme on disait, hein, quand le poids est un critère pour performer, des fois il y a des comportements du coup alimentaires qui vont être mis en place pour arriver à leur fin.
Ouais. On avait parlé d'ailleurs de ce sujet-là avec Yvan Rassat dans un épisode. Alors, si vous recherchez dans les archives, il a écrit un livre et tout sur le sujet. Où justement, après une blessure, puis c'est l'histoire de contrôle de poids et tout, et il mangeait plus, et puis il a fini par se blesser encore plus. Mais il en était sorti, et notamment il a participé au championnat du monde dans ces catégories. Donc, ce qui montre qu'on peut s'en sortir, c'est comme l'alcool. Hein. On a un témoignage d'un ancien alcoolique qui fait du trail. On n'est pas condamné, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça. Et puis souvent, en plus, dans la consommation d'alcool, on dit justement de passer par le sport. Ça peut être, ben, comme on disait, hein, dans le cerveau, la dopamine, etc. Certains qui n'ont pas encore eu trop d'activités sportives et qui consomment de l'alcool, des fois on dit, ben, allez faire une activité sportive, vous allez voir. En tout cas, effet hormone plaisir, ça va être la même chose à peu près. Donc c'est pour ça que souvent, on peut conseiller d'aller faire du sport.
Bon,
Mais même au niveau de l'alimentation, hein, souvent aussi, on peut conseiller de faire du sport. Le sport, et quand même, là, depuis tout à l'heure, on diabolise, mais il y a quand même un apport très bénéfique, hein, à faire du sport. Et c'est pour ça que la consommation d'alcool, on le montre moins, ou en tout cas, là, ça a moins le devant. C'est qu'on dit tellement que le sport, c'est une vertu, que ça a plein de bénéfices pour la santé, etc., qu'on a un peu moins tendance à montrer le côté un peu plus obscur.
ouais. Mais c'est vrai que tu as dit un truc d'ailleurs qui est intéressant, c'est de dire finalement quand les gens leur demandent ce que leurs voisins boivent, etc., dans leur équipe, tout, ils ont l'impression qu'ils boivent plus. Donc il y a une espèce de mise à niveau, tu vois, un petit peu dans ce sens-là. Peut-être que si les gens en parlaient plus, si on parlait plus de ce sujet-là, qu'on se rendait compte que finalement, bah oui, ils boivent, mais peut-être pas tant que ça, et qu'il y a peut-être des équilibres à trouver, peut-être qu'il y aurait des modèles peut-être à construire, à trouver. Parce que c'est vrai que enfin, tu fais des recherches, t'en trouves, mais c'est un peu tabou, quoi, parce que tu as 5 nageurs, 3 footballeurs qui témoignent. Et honnêtement, il y en a beaucoup plus que ça qui sont tous qui consomment.
Mais en fait, le sport, c'est un milieu hyper fermé, hein. Enfin, là, ben, il n'y a pas longtemps, il y a eu le mouvement MeToo dans le sport, mais enfin, on n'est pas tombé des nues, ceux qui s'intéressent. Dès 2010, il y avait les premières enquêtes où on savait très bien. C'est en fait, c'est un milieu tellement fermé, tellement, j'ai l'impression aussi, tellement compétitif que est-ce que si quelqu'un dit j'ai un problème d'alcool, il sera pas mal vu,
Ouais.
mal perçu? Est-ce qu'on va pas dire, ah, bah, du coup, on va peut-être pas le mettre dans l'équipe ou etc. Ou si quelqu'un dit, il ben, faudrait peut-être arrêter les troisièmes mi-temps, on va pas être mis. À l'écart du reste du groupe, je sais pas, c'est, j'ai l'impression que c'est un milieu où du jour au lendemain on peut être la 8e merveille du monde et terminer comme la personne qu'on va exclure de partout. Je sais pas, il y a une espèce, ouais, c'est un milieu assez fermé, assez particulier. Je sais pas comment ça pourrait être perçu, mais c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus important que ça vienne des instances et que ça
Ouais.
vienne des personnes qui encadrent, parce qu'on va pas demander à un joueur lui-même. Enfin, lui, c'est toute sa vie le sport. Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire des sacrifices? Ça me fait penser ben, à la Coupe du Monde au Qatar, quand on disait aucun des joueurs ne s'est positionné. Mais depuis qu'il a 8 ans, en fait, il s'entraîne tous les
C'est
jours. Ça
clair.
se trouve, ce sera sa seule Coupe du Monde. Il est au meilleur de sa forme. On va demander à quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie. Ah ben non, tu devrais toi te mettre à l'écart, sacrifier. Enfin non, c'est pas. Faut aller un peu plus haut, quoi. Et c'est vrai que ben, là, par contre, on peut parler des instances sportives. Où ben, je suis désolée, mais bon, il y a peut-être des gens en place depuis un peu trop longtemps, des familles en place, des groupes en place qui sont peut-être pas forcément les mieux, et il faudrait peut-être aussi commencer par changer ces choses-là, quoi.
Ouais, mais tu parlais du mouvement MeToo. J'ai fait un épisode avec Emma Oudiou, qui était victime de violences sexuelles, qui a fait un documentaire publié ça le 8 mars dernier sur Kimet 42, qui montre bien aussi que les instances, la protection, les entraîneurs qui sont
Ouais.
très très bien vus, qui ont. Et on parlait tout à l'heure de mental, hein. Il y a eu des clubs en gymnastique qui ont eu des gros soucis de justice. On parle de l'athlétisme jusqu'à l'INSEP, hein, quand même, hein. Donc ça monte très haut dans ces histoires-là. En disant, bah, il y a des pressions psychologiques, des pressions alimentaires, qu'il y a du harcèlement sexuel, moral et tout, qu'il y a beaucoup de choses dans le sport. Et c'est vrai que c'est toujours les instances qui semblent couvrir, qui semblent mettre un chapeau là-dessus. Et qu'à un moment, il faut que ça bouge. Et on le voit d'ailleurs aussi, j'ai trouvé sur l'alcool, j'avais fait des recherches, que, bah, on demande aux fédérations de s'en occuper un peu. On disait l'alcool comme produit dopant, bah, ça serait bien que les fédérations se gèrent aussi. Ça descende, hein, que ça, j'allais pas dire que ça ruisselle parce que le ruissellement des fois ça marche pas très bien, mais dans ce cadre-là, que au moins qu'il y ait des grands trucs qui soient dits et peut-être une vraie prévention aussi là-dessus, qui dépasse un petit peu, qui change un petit peu le discours, quoi, parce qu'on a l'impression, tu disais que ça reste cool, alors j'imagine bien que les gouvernements sont un petit peu frileux à se prendre des manifestations des producteurs d'alcool, de vin et compagnie en France, mais on parle de santé publique quand même.
Bon, on a Emmanuel Macron qui boit une bière dans les vestiaires avec les joueurs. Non, mais ouais, comme tu dis, c'est vrai que ça paraît des fois hallucinant. Enfin, quand on voit déjà les instances, et puis on peut parler aussi de la consommation d'alcool, encore une fois, chez les joueurs, les fédés testent beaucoup de trucs. Hein, parce que, comme on disait tout à l'heure, quand on a un groupe de 20 joueurs qui font 1m80, 10, 200 kilos, qui débarquent en ville alcoolisés, ça, enfin, il n'y a pas. Enfin, il y a des conséquences, quoi. Donc c'est vrai que, en tout cas, commencer à en parler, je trouve que c'est déjà quelque chose. Mais comme je disais, on commençait à parler de MeToo dans le sport en 2010. C'est sorti plus de 10 ans après. Donc peut-être que d'ici 10 ans, il y a des choses qui vont être mises en place. Mais c'était dommage parce que ben, avec la Coupe du Monde de rugby en France et les Jeux Olympiques l'année prochaine, je pense qu'on aurait pu mettre des moyens de prévention ou quelque chose comme ça. Donc, à voir. Mais oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont dans les fédés ou dans les instances qui sont là depuis un peu trop longtemps et que ce serait bien de laisser la place à d'autres.
Ouais.
Parce qu'il y aurait peut-être plus de choses qui sortiraient et c'est vraiment pas pour diaboliser encore une fois le sport. Au contraire, c'est pour le rendre un peu plus beau. Voilà.
Et oui, c'est un vaste sujet et on voit d'ailleurs que c'est pas si simple que ça et tout. Et on parlait, hein, des sportifs, mais on pourrait dire aussi ce qui se passe dans les tribunes. J'ai vu qu'il y avait, pendant la Coupe du Monde, il y a eu des records de bières vendues dans certains matchs. Bah, il faisait chaud et on a bu des bières. Bref, voilà, c'est un grand, 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 grand sujet. On voit que c'est un sujet complexe, hein, quand même, hein. C'est pas un sujet facile, hein, à aborder, à en parler, que tout le monde a un petit peu son avis. Je plaisantais tout à l'heure en disant, ma maman, tout week-end, elle me dit, mais bois un verre de vin, c'est bon pour pour le cœur. Je lui répète, oui, je lui dis, oui, vrai, mais il faudrait que j'en boive 6 litres. Alors, d'un coup, elle me regarde un peu bizarrement, elle dit, quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, bah oui, les études, c'est pas si simple que ça. C'est vrai qu'il y a, des. Comment dire? Il y a le côté cool, il y a aussi le côté un peu les vieilles notions qu'on peut avoir, des fois, hein, là-dessus, qu'il faut peut-être un peu mettre au jour aussi, hein, mettre à jour certains trucs, parce que. Qui sont un peu ancrés comme ça et qu'il faudrait un petit peu mettre à jour et dans les familles, et là on sort des fêtes de fin de Noël quand on va diffuser cet épisode et on rentre, alors tu vois on va diffuser Dry January, t'en as parlé tout à l'heure. C'est un bon truc ou c'est pas un bon truc finalement, tu vois, ce mouvement là
bah c'est toujours enfin il n'y a pas de réponse claire, c'est toujours un bon truc parce que ben, du coup certains vont arrêter de consommer pendant quelques temps et du coup au niveau de la santé ça peut être que mieux. Après j'ai pas forcément en tête là, les conséquences négatives du dry January, si ce n'est que ben, peut-être que certains vont faire un février beaucoup plus alcoolisé, mais non non c'est forcément quelque chose d'assez bien. Après ouais, je sais pas, c'est un mode de consommation comme un autre, un comportement comme un autre, pourquoi pas, ça peut être positif, ouais.
Bah écoute, on va faire comme Ronaldo, hein. C'est marrant, Ronaldo, c'est un exemple dans le sucre, c'est un exemple dans l'alcool, et je sais pas moi l'histoire de l'alcool, mais l'histoire très répandue, c'était l'histoire quand il est retourné à Manchester, qu'il avait enlevé, qu'il prenait pas de dessert, que tous ses coéquipiers ont arrêté de prendre des desserts à la cantine à midi, je savais pas pour l'alcool, mais comme quoi, et après c'est vrai que bon, Cristiano Ronaldo avec le nom de Ballon d'Or, c'est un exemple.
Et... Non mais Cristiano Ronaldo, lui, toute sa vie, c'est son corps, et je pense que, ouais, il veut, enfin, s'il a duré aussi longtemps... C'est pas pour rien, lui. Je pense qu'il a, il vit son corps comme une machine à performance.
Ouais. Je serais persuadé. Un jour, j'inviterai Novak Djokovic à parler d'alcool. Bon, c'est une blague. Mais lui aussi, je pense que sur le contrôle. Mais après, peut-être ça va un peu loin. Après, on peut parler parce Ronaldo, Djokovic. On est dans des, on est vraiment dans des notions aussi où ils sont dans un contrôle qui est tellement important. Qui va tellement loin. Et il y a des sports, on en a parlé, des sports qui sont aussi sujets à ça, hein, de l'anorexie. T'as parlé de tous les sports de poids. Il y a un sport, un jour, il faudrait vraiment qu'on en parle, c'est l'aviron. Quand on lit les livres, quand on lit les témoignages de ceux qui ont fait de l'aviron, qui se privent de manger un truc. Alors eux, je pense que les verres d'alcool, avec la quantité d'alcool, de sucre qu'il y a dedans, ça fait partie effectivement des endroits, ils ne doivent pas traîner vraiment là-dessus. Djokovic a vraiment été interviewé sur l'alcool. Hein. Ça le fait valser, il paraît. Tu vois, peut-être qu'avant un match, c'est peut-être pas le truc qu'il va prendre. Bref, en tout cas. Et tu sais, il y avait un autre truc aussi. On avait parlé avec Bruno Bich, je disais, sur les célébrations d'après-match. Et d'après, tu vois, par exemple, les podiums de Formule 1, de moto, ils ont les grosses bouteilles, et paf, ils les ouvrent sur les trucs de vélo et tout. Et je lui ai dit, mais ils les boivent ou ils les boivent pas? Tu vois, alors je sais pas s'il y a des études qui ont été faites dessus ou pas, mais c'est vrai que dans la célébration quand même de ça, c'est la bouteille de champagne, la célébration même. Et donc on reste dans de l'alcool, je veux dire. Il y a à part le Tour de France qui me donne un bouquet de fleurs, le reste. Et j'avais vu un reportage sur les équipes du Tour de France. Hein, et il y a des cyclistes qui boivent une bière des fois dans les jours de pause et tout. Hein. C'est des trucs qui sont cités, donc ça veut dire qu'à une certaine quantité, ils le tolèrent, ils l'acceptent. Ça fait partie aussi des cohésions d'équipe. Mais c'est vrai que ce symbole de la bouteille de champagne après les matchs, après dans n'importe tous les sports, c'est un truc qui est une constante qu'on trouve partout, quoi.
Mais c'est ça, l'alcool, il a une image positive. On en revient toujours à la même chose, mais c'est pas forcément une substance qu'il faut diaboliser, mais c'est juste dire consommer avec modération. On dira toujours c'est qui modération, mais en tout cas il faut juste faire attention. Je pense que pour les sportifs il faut savoir s'écouter, se dire que c'est pas parce que les coéquipiers consomment que nous on est obligé de consommer. C'est que il y a des conséquences, c'est une substance psychoactive qui a des effets, et qui a des effets peut-être positif, mais qui a des effets aussi délétères, et donc il faut aussi savoir en prendre compte. Après, est-ce qu'on demande sur les podiums d'enlever des bouteilles? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait au moins commencer par changer cette image-là de l'alcool. Il faut que ça intervienne à tout moment, et y compris quand on célèbre les victoires, parce qu'en fait, après, dans l'inconscient, ça rentre en compte. Hein. C'est-à-dire que, je pense que la France, elle gagne la Coupe du Monde de rugby. Les joueurs vont forcément se dire, on va boire un verre. Hein. Je vois pas dire, on prend un thé et puis...
On prend un tour, rentre à la maison. Non, je ne voyais pas faire ça. Mais bon, après, ils payent leur tournée. J'ai eu un jeu de mots sur l'addiction, je l'ai oublié, c'est dommage. Mais chacun paye sa tournée, on paye l'addiction, tu vois. C'est... voilà. Bref, allez, sur ce, merci en tout cas beaucoup. Hein, c'était vraiment super intéressant. C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, qui est complexe. Et tout le monde a son avis dessus. Et c'est pas facile, hein, je dis. Alors, je ne sais pas, tu vois, ceux qui seraient intéressés par la question, parce que tu dis que tu as fait une thèse sur le sujet et tout. C'est quelque chose qu'on peut retrouver en ligne ou quelque part.
Des thèses sont publiques, oui. Oui, les thèses sont publiques, donc elle est en ligne, tout à fait. Ouais. Après, il y a quelques articles aussi. Je suis pas la seule en France. On est alors à l'époque, on n'était pas beaucoup, mais il y a quelques équipes, notamment à Montpellier, à Grenoble justement, je crois, qui ont travaillé sur la question en France, notamment mais par les filières STAPS. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas du tout organisé comme les universités américaines et du coup pour avoir à disposition, on va dire, un échantillon de population, donc les personnes qu'on va étudier, à qui on va poser des questions, soumettre des questionnaires, etc. C'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même des études françaises qui sont menées.
D'accord. Et si toi, on veut te contacter, t'as, je ne sais pas si tu es sur Internet, sur Facebook, sur LinkedIn, quelque part, j'en sais rien.
Alors, je suis sur LinkedIn.
D'accord.
Tout à fait. Si vous voulez me contacter, avec grand plaisir.
Mais écoute, tu sais quoi, tu m'enverras le lien, je mettrai le lien dans la note de l'épisode. Si tu as le lien vers ta thèse aussi, tu sais ce que tu fais, si tu as un lien, on peut la consulter en ligne, tu m'envoies le lien, comme ça, je la mets dans les notes d'épisode. Comme ça, chacun pourra lire, voir un petit peu, parce que c'est vrai que dans les recherches scientifiques, il y a toujours des éléments, des témoignages, des dires différents aussi, des choses peut-être qu'on n'entend pas ailleurs et qui là sont peut-être dites aussi.
Oui, puis après, à chaque fois, on a une certaine vision, c'est-à-dire que ben, y a peut-être des choses qu'on affirme des fois sur tel article à montrer ça, mais si on lit un autre article, des fois, ça va dire le contraire. Par exemple, ben, pour revenir au sport, à l'intensité de pratique, il y a certains articles qui vont dire ben, plus on pratique, plus on consomme, et dans certains autres, ils ont montré que ben, plus on pratique, moins on consomme. Donc et après, il faut trouver un peu un consensus, il faut essayer de chercher qu'est-ce qu'ils entendent par l'intensité de pratique, etc. Mais donc c'est vrai que ben, tout le monde, j'incite tout le monde à lire des articles aussi quand ils veulent se renseigner, mais c'est vrai que souvent, ben, notamment en psychologie, on n'est pas une science exacte. Donc on pourra toujours mais bon, quand on fait quand même des statistiques assez poussées, donc on sait que c'est 95% de marge, enfin on a une marge d'erreur qui est assez faible, on peut se dire qu'on a quand même un résultat qui est obtenu.
Ouais, et puis il faut le dire, hein, c'est en français, c'est une recherche française. Hein, pour ceux qui sont un peu allergiques, on leur dit qu'il faut aller voir les études, PubMed et compagnie, ils disent écoute-moi l'anglais. Et là, c'est en français. Donc allez-y, vous n'avez pas d'excuses. Voilà, et bien écoute, en tout cas, Aude, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous, c'était super intéressant. Hein, un sujet vraiment complexe, mais je pense qu'on a bien fait le tour hein, de tout l'ensemble, de tout ce que ça regroupe comme chose. C'est vrai, hein, le côté cool, hein, on disait beaucoup le cow-boy qui fume une cigarette était cool et il a fallu l'enlever pour que ça soit un peu moins cool. Et ben, peut-être qu'il va falloir enlever les sportifs qui fêtent leur victoire avec de l'alcool. Va savoir. Après, il va falloir trouver des nouveaux sponsors. Hein. Moi, je suis pas organisateur de course, hein, donc je me mouille pas là-dessus. Mais c'est vrai que ce côté, c'est cool. Hein, voilà. Bon, peut-être qu'il faut l'enlever. En tout cas, on l'a bien vu. Je te remercie beaucoup. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, je sais pas trop en fait dans quel ordre on diffuse tous les épisodes, etc. Mais en tout cas, on continuera à creuser ce côté entre le sport, la nutrition, l'alimentation et tout. Puis je pense qu'il faudra qu'un jour on ira sur d'autres sujets aussi qui sont dans l'addiction. Un jour on ira parler peut-être des drogues, un jour je pense, parce qu'il faudra y aller, parce que je pense qu'il y a le côté aussi là-dessus. Et quand on voit l'actualité, on voit que quand même c'est un sujet qui est vaste. Ça touche même les sénateurs. Alors moi, tu vois, les sénateurs qui se droguent. J'en suis toujours parmi. Et quand on voit les conséquences sur eux, c'est malheureux. Allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée, des belles fêtes de fin d'année, parce qu'on enregistre en décembre, je le dis. Je te souhaite une belle année 2024. Hein, comme ça, je fais tout le pot, tout le lot. Et puis, merci encore pour toutes les informations.
Merci, bonne journée à tous et bonne journée à toutes.
Et ben merci beaucoup. Ciao, ciao.
Au revoir.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.